Salut à tous, bienvenue pour On se dit les choses, votre podcast numéro 1 au top 50, s'il existe encore. On va parler sport, bien sûr, on va parler sport d'ici, avec quelques brillants personnages autour de la table. Pour commencer, à ma gauche, celui qui a le contrôle de la télécommande de la télé des urgences de Bayonne le dimanche soir, Christian Saint-Pé. Salut Christian.
Allez, chats à tous et à gauche chez les rois.
Et à côté de lui, celui qui choisit les chaînes sur la télé des urgences de Bayonne le dimanche soir, Jean Forêt. Salut Jean.
Bonjour.
Et qui a le sens de l'humour aussi, ça c'est une grande grande qualité, on peut pas le nier. Pour poursuivre le tour de table, celui qui regarde les programmes de dimanche soir sur les télés des urgences de Bayonne, Greg Letor. Salut Greg.
Bonjour à tous, bienvenue.
Et enfin, celui qui a insisté pour qu'on éteigne parce qu'il était trop choqué, c'est Jérôme Carrère. Salut Jérôme.
Bonjour le Berne, bonjour la Soule.
Et pour avoir les références à cette private joke que personne n'a saisi, allez sur le site de larépublicedespyrénées.fr. Vous aurez tout dans les détails, même des images. Allez, ça c'est du teasing. On commence par l'actualité la plus récente. Ça se passe en salle aussi, avec des grands garçons qui transpirent. Jean, c'est le basket, c'est l'élan béarnais qui a rempli sa mission avec brio mardi soir sur le parquet du Portel. Une victoire décisive.
Quasi décisive, je ne sais pas. Brio, je ne sais pas non plus, mais importante et précieuse.
Il y a des choses qu'on sait ou...
C'est certain, pardon.
Il y a des choses qu'on sait quand même ou...
Qu'on sait, oui, on sait que l'élan va se maintenir, c'est presque. Mais oui, gagner au Portel, c'est finalement écologique. On va me dire qu'il y a un petit souci.
Micro, est-ce qu'on m'entend mieux? On m'entend mieux. Bonjour les amis, comment allez-vous?
Non, on ne refera pas de deuxième prise. Hors de question, vous allez supporter de l'arsène.
On est bien ici. Donc, aux urgences de Bayonne. Hein.
C'est ça. Donc la question, c'était... c'était quoi déjà la question? Oui,
la question,
une victoire décisive.
Oui, victoire, je ne sais pas si elle est décisive, mais elle est précieuse et vraiment importante. C'est clair que l'élan a dominé son sujet presque autant qu'au match aller le mois dernier. Où il s'est imposé de 30, là il gagne de 14 à l'extérieur. Enfin, c'est une équipe du Portel, pour moi c'est vraiment une énigme cette équipe, vu le niveau qu'elle propose face à l'élan. La retrouver aujourd'hui avec 12 victoires, c'est quand même assez miraculeux. Une équipe avec des pivots qui culminent à 1m98, enfin bref, ça c'est leur problème. Mais pour l'élan en attendant c'est important, ils se retrouvent avec 10 victoires, soit un succès de plus que 3 équipes à 6 journées de la fin. Et ça c'est le gros bonus, sachant qu'on va en parler, le calendrier et l'oreille maintenant largement favorable.
Oui, et dans le contenu aussi, c'était pas fantasia, hein, c'est une expression que vous aimez bien, c'était pas fantasia. Ils sont contentés d'être sérieux, de défendre fort par contre.
Oui, quand on prend 115 points à Nanterre et que la semaine suivante on n'en prend que 58, même si c'est le Portel, forcément c'est riche d'enseignements. Et surtout sur l'état d'esprit, l'équipe a su se remettre en question et faire l'effort nécessaire pour empêcher cette équipe du Portel de rouler son petit basket.
Avec un peu de vexation aussi de leur part, c'était une manière de répondre?
Il y avait déjà eu la réponse quand même face à l'Asvel entre temps, puisque face à Villeurbanne ils sont devant pendant 32 minutes sur 40, c'est quand même pas mal. Il y avait déjà eu cette réponse là face à l'Asvel. Là ils se méfiaient du Portel, surtout que ça s'était pas super bien passé avec Eric Girard forcément le mois dernier ici, où Girard reprochait à Bartichéki d'avoir pris un temps mort à plus 20 à la fin. Enfin bref, il y a eu un peu d'incompréhension. Donc s'il avait pu lui mettre en retour, je pense qu'il ne s'en serait pas privé. Donc l'élan, Bartichéki craignait ce déplacement. Il a été bien abordé. Et on a vu en défense, à l'intérieur, Ndiaye, Cornelis a fait le taf. Et forcément, ça a empêché le Portel de trouver son adresse. Ils ont été maladroits, mais ça vient en partie de la défense de l'élan.
Avec sans attendre, dès ce samedi soir, c'est aussi un match qui ressemble à une balle de match. Hein. La réception de Gravelines, on reste dans le Nord, mais au Palais.
Ouais, balle de match, non, pas balle de match. Il faut prendre les 6 derniers matchs dans leur globalité. Il en reste 6, l'élan reçoit 4 fois. Et sur les 6 matchs, c'est 5 concurrents directs. Et parmi ces 5, ils reçoivent Cholet, ils reçoivent Gravelines donc et Chalon. Mais Cholet et Chalon, l'élan est allé gagner là-bas. Donc l'avantage de le recevoir, si ils gagnent ces 2 matchs au Palais, ça veut dire qu'ils font, en cas d'égalité, ils sont forcément devant Chalon et Cholet. Donc là c'est Gravelines, ça sera une première cette année puisque le match retour aura lieu lors de la dernière journée de championnat. Alors, balle de match non, mais match important oui. Gravelines qui n'est pas au mieux, même s'ils ont gagné au buzzer avec un panier de Boukichou, l'ancien palois version crève-cœur, à 2/10 de la fin mardi soir face à Chalon. Gravelines qui a perdu son meneur Delante Weber, qui s'est blessé au genou. au bout de 5 minutes face à Chalon. Il est out jusqu'à la fin de la saison. Et comme Gravelines a déjà grillé ses 16 joueurs, ses 16 contrats, c'est terminé pour eux, ils ne peuvent plus recruter personne. Donc ça va leur faire un gros trou aux chaussettes là, de venir sans meneur américain. C'est le jeune Lucas Bourris qui va devoir mener le jeu quasi intégralement. Donc ça peut les ressouder, c'est ce que disait Bartechiki ce matin. Attention, on le sait, quand une équipe arrive sans son meilleur joueur, ceci, cela.
On l'a vu avec Ayaï, notamment pour les jeunes joueurs qui, quand le cas s'était présenté à l'élan, avaient su...
Quand qui s'était présenté à l'élan ?
Quand Ayaï avait dû prendre les choses en main, ils ont eu une période avec beaucoup de blessés.
Oui. Ben, ce qui sera encore le cas samedi soir, puisque Vincent Ford, qui ne jouait pas au Portel mardi soir pour à cause d'une entorse à la cheville, qui s'est faite la semaine dernière face à l'Asvel, est encore incertain, il ne s'est pas entraîné ce matin, il va essayer de reprendre peut-être un petit peu demain. Bartechiki compte sur lui pour éventuellement assurer une petite rotation de 5 à 10 minutes, au mieux samedi soir, mais effectivement l'élan a les arguments et l'effectif pour battre Gravelines samedi, et puis enchaîner, puisqu'ils reçoivent 3 fois d'affilée, et si tout se goupille bien, dans une semaine, le maintien peut être plié à 3 journées de la fin. Ce qui serait quand même un miracle.
C'est ce que j'allais dire, pour le coup, inespéré. Ouais,
ouais, totalement inespéré. Donc effectivement, faire le boulot face à Gravelines. Jeudi, c'est Limoges. On fait plein de dessins. Limoges qui n'est pas au mieux. Voilà, bon, bref. Et le samedi suivant, le dimanche suivant, c'est Chalon. Chalon-sur-Saône, qui jouera certainement sa dernière carte. Donc si les étoiles s'alignent et que l'on fait le boulot, ça peut être plié dans une semaine.
S'ils se mettent en péril, derrière, on fête le maintien avec 5000 spectateurs au palais.
Ouais, après à Boulazac, et après ce serait Cholet, l'avant-dernier match, là effectivement devant 5000 spectateurs pour une grande fête, mais on en est encore loin. Commençons par faire le boulot samedi face à Gravelines, qui pour le coup va venir libérer entre guillemets, un parce qu'ils ont gagné mardi soir par miracle, et deux parce que peu de monde leur accorde les faveurs des pronostics. Donc une équipe libérée, on sait ce que c'est au basket, ça peut mettre des shoots et mettre en péril l'élan qui est assez versatile, qui peut tout faire dans le même match ou d'une semaine sur l'autre. Donc les cartes sont dans les mains de l'élan à condition qu'il les distribue comme il faut. Ouais.
D'accord. Une autre...
C'est beau.
C'est beau. Émission de poker. Reconversion envisagée. Une autre partie qui jouera samedi, mais là pour le coup on a un peu peur. Bon, traditionnellement on a peur quand on va à La Rochelle. Là peut-être un peu plus que d'habitude, Jérôme, parce que c'est donc la section paloise qui se rend samedi après-midi sur le terrain du Stade Rochelais, qui a priori, puisque la Coupe d'Europe a eu lieu, ne fera pas l'impasse. Enfin, c'est pas prévu, je crois. Hein.
Oui, c'est ça, tous ces grands débats sur l'inéquité du championnat, les effectifs qui tournent, etc. Non, La Rochelle va mettre la meilleure équipe qu'il aura, puisqu'il y a quand même des joueurs qui ont été touchés après cette finale contre Toulouse qui a été bien épaisse. Donc ils feront au mieux, donc il manquera certains joueurs évidemment, mais en tout cas La Rochelle, oui, compte prendre ce match, tout simplement pourquoi ? Parce qu'au classement, La Rochelle, ils sont deuxième, mais ils sont encore sous la menace du troisième, le Racing, et du quatrième aussi, du cinquième. Donc en gros, pour s'assurer une place dans les deux ou au moins dans les quatre, donc ce qui supposerait dans les deux une demi-finale, donc ils auront un week-end de repos après la fin du championnat, et 3 ou 4, un barrage qu'ils accueilleraient à la maison. Pour ça, il faut battre au moins la section paloise, voire faire encore mieux sur le dernier match.
Après, si je puis me permettre, je vais y arriver. Je pense que c'est quand même pas mal pour la section de se pointer à La Rochelle 8 jours après la finale qu'il y a eu contre Toulouse, parce que quand on voit l'intensité de cette finale, quand on voit donc la casse dont a parlé Jérôme au niveau physique, quand on soupçonne aussi le mental que ça mobilise, hein, un tel rendez-vous, on sait très bien que même les équipes de haut niveau peuvent avoir un contre-coup 8 jours après. Alors peut-être que le staff rochelais, qui est mieux placé que nous pour gérer ça, va peut-être un petit peu régénérer son effectif, faire un peu tourner. En tout cas, voilà.
Je dirais ça juste, s'ils avaient gagné la finale, là ils l'ont perdu, et à mon avis, le fait d'avoir perdu, pour eux, l'objectif, ils n'ont pas d'objectif encore atteint cette année, donc je pense qu'ils vont le prendre quand même avec sérieux et trouver 15 bonhommes capables de mettre ce qu'il faut sur la pelouse.
C'est ce que j'avais demandé à notre mentaliste de service, Greg. On se demandait avant, est-ce qu'il vaut mieux les prendre après une victoire, après une défaite, même si La Rochelle, il ne faut jamais les prendre. La seule bonne nouvelle, la moissonneuse-batteuse des Fidji, de Botia, donc, devrait être suspendue. Mais est-ce que c'est vraiment encore plus dangereux d'y aller après la défaite ?
Disons que La Rochelle a l'effectif pour compenser les absences et la fatigue. Après, à savoir à quel point est-ce qu'il y aura une usure, à quel point est-ce que les rotations peuvent impacter l'efficacité de cette machine. C'est vrai que moi, j'imagine un coup à faire pour la section paloise.
Il faudra les garçons pour ça. On parle notamment d'Astoy. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours, Antoine Astoy, sur le retour. Est-ce que le staff va vouloir le lancer directement sur un match comme La Rochelle, ou alors ils vont viser plus sûrement Montpellier?
Ben après, ça va aller très vite. Il reste 2 journées dans la saison régulière, un éventuel barrage si ça tourne mal. Donc non, je pense qu'il sera sur la feuille de match. Le lancer d'entrée, le remettre aussi dans le bain des tirs au but, puisque Yankees n'a pas été exceptionnellement brillant sur ce domaine-là. Et Astoy est toujours 3e meilleur buteur du top 14. Donc ça peut être une occasion de se rassurer. Il peut aussi choisir d'aligner les deux. S'il y a le parti pris joueur. Donc voilà, il y a le retour de Julien Fumat qui a annoncé son intention de mettre fin à sa carrière. Alors, il était partant pour une saison supplémentaire. Visiblement, le staff n'a pas pris la main tendue, en tout cas dans un rôle de joueur. Il y aura forcément aussi à cœur de tout faire pour lui laisser une belle sortie.
Vous y croyez sérieusement à cette possibilité de victoire? Là, je regarde un peu tout autour de la table parce que c'est des cibles désignées, c'est des victimes désignées. C'est comme ça qu'on peut voir les Palois sur ce match quand même.
Oui, et puis si on regarde l'histoire récente, je rappelle quand même les derniers résultats à La Rochelle, 71-21, 44-14, 27-6, 35-16. Ça force pas forcément l'optimisme, sachant que la section à La Rochelle n'a pas gagné. Si on prend le début des années 2000 même, elle ne s'y est jamais imposée. Donc l'histoire n'est pas vraiment avec elle. Après, est-ce qu'elle peut y gagner? Effectivement, bon, une finale, c'est toujours pareil. Ils l'ont perdu. Bon, ils ont de la casse. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Soit ils réagissent de suite, ou soit ils ont la tête un peu au fond du seau. Et ça se passe mal, mais ça, on ne peut pas le deviner aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les Rochers, dans leur discours, ont dit on se laisse 48 heures pour digérer. Et après, on repart à l'attaque, on repart à l'abordage. Parce qu'ils savent qu'ils ont un Brennus éventuellement à aller chercher en fin de saison. Donc c'est quand même difficile d'imaginer la section gagner là-bas, sachant aussi qu'il y a quand même un antécédent, même si La Rochelle a changé de dimension entre les deux clubs. On sait qu'en Pro D2, ça fritait dur. Je les imagine mal, en tout cas, se dire lever un peu le pied face à Pau. Au contraire, c'est peut-être une bonne manière aussi d'envoyer un message à l'entourage du club, etc., qui sont bien de retour et bien disposés à gagner le Brennus.
Jean, oui, justement, une question aux spécialistes, puisque il me semble, il y a quelques saisons, les deux équipes ferraillaient férocement en Pro D2, elles étaient coude à coude. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, La Rochelle joue le titre en Europe et en France, et que la section végète pour le maintien? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-6 ans pour que les dynamiques se soient totalement inversées?
À mon sens, il y a eu une réussite à La Rochelle, celle de pouvoir construire au fur et à mesure des recrutements un héritage. Ce qui a moins été le cas à Pau, parce qu'ils ont recruté des joueurs de classe mondiale, des Conrad Smith, des Colin Slade, des Ben Moen, qui était capitaine de l'Australie, des Stephen Armitage, mais ces joueurs sont partis, et puis il s'est rien passé derrière. Julien Fumat, c'est un joueur emblématique de la section paloise. Vous prenez du côté Rochelet, vous avez 6 joueurs qui disputaient la finale de H-Cup, qui étaient là pour la montée du club. Et je crois que c'est peut-être là que La Rochelle a mieux réussi son pari.
Ah mais donc, Pau, autant vous avez souligné effectivement le recrutement de joueurs de classe mondiale, mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de flops au niveau du recrutement. Il y a beaucoup quand même de questions qui se posent ces dernières années sur la façon de la section de recruter. On se demande quel est le fil conducteur, et on espère qu'avec l'arrivée de Sébastien Picoroni et de Monsieur Pérez, pour reprendre son appellation, on espère qu'on va plus s'y reconnaître dans le recrutement de Pau, parce que là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de déceptions, beaucoup trop de joueurs qui font partie quand même de certains hauts salaires et qui ne jouent pratiquement pas. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer sur ce plan-là, quoi. Et on espère que, certainement, avec une politique de prendre des jeunes à fort potentiel, ça changera un petit peu la donne.
Après, c'est un peu dans l'après-Manix aussi qu'il y a eu des difficultés. C'est-à-dire que la section a été aux portes du top 6, on s'en rappelle tous, voilà, avec ce fameux match contre Agen qui perdent, etc. S'ils étaient rentrés dans le top 6, peut-être aussi que l'histoire aurait été différente. C'est à ce moment-là qu'il y a un peu de problème. Et Julien Fumat l'avait dit, ça fait un peu 3 ans que le club navigue à vue, qu'il a du mal à se remettre finalement de ce départ-là. Alors que La Rochelle, ils sont partis un peu fort, ils ont eu un petit creux également. Mais là, ils sont repartis très fort depuis quelques saisons, avec également Jono Gibbs qui est venu, qui a amené peut-être un autre point de vue. Là, O'Gara qui prend la suite. Finalement, c'est vrai que cet héritage-là, il s'est mis en place. Garbajosa aussi avant, qui avait pris la suite des autres. Enfin, tout ça c'est fait un peu mieux, ça a été un peu mieux huilé effectivement. Après dans les recrutements aussi, ils sont allés chercher des joueurs peut-être un peu moins prestigieux, pas forcément des internationaux, mais des joueurs, je pense à des Pierre Aguillon comme ça.
Oui, ils ont recruté de bonne valeur. En Pro D2 à une époque. Hein,
voilà, qui effectivement a explosé, qui leur ont donné raison aujourd'hui.
Très bien, voilà pour le comparatif. Il y a une dernière donnée sur le rugby qu'on est obligé de regarder aussi, c'est ce duel à la distance entre Pau et Bayonne. Là aussi, je vais vous demander votre avis, messieurs. Bayonne qui, on est dans la thématique finaliste de Coupe d'Europe, Bayonne qui joue à Montpellier ce week-end, et Pau qui recevra Montpellier sur la dernière journée. Là aussi, ça ne sera pas le même match, parce que si j'ai bien compris, si Montpellier plie Bayonne, ils sont quasiment maintenus quand même. Pour ne pas dire officiellement.
Ils sont mathématiquement maintenus en cas de victoire. S'il y a une défaite de la section paloise, ils sont aussi maintenus. Mais après cette saison à rallonge, cette saison d'horreur et de cauchemar pour eux, qui s'est ponctuée presque miraculeusement par un titre, c'est peut-être c'est l'occasion de se maintenir. Ils ont fait tourner à Bordeaux, ils y sont allés avec les espoirs. On imagine que le rendez-vous a été ciblé pour valider officiellement le maintien et tourner la page.
Donc à deux journées de la fin, c'est toujours aussi peu clair pour désigner qui ira en barrage et qui ira directement sauver sa peau.
Au-delà de ça, il y a le Stade français qui se déplace à Bayonne pour la dernière journée. Si le Stade français ce week-end réussit quelque chose contre Lyon, ils ont potentiellement encore la capacité d'entrer dans le top 6. Donc tout ça, ça va être les résultats du week-end qui vont nous dire ce qui va éventuellement se passer la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que la section aujourd'hui a 3 points de retard sur Bayonne et qu'elle se déplace à La Rochelle qui n'a perdu que 3 matchs ces 3 dernières saisons à domicile.
Très bien. L'actualité suivante, je reviens vers vous Jean, c'est du tennis. Il y a Roland Garros, on entend le poc-poc de la balle sur l'ocre parisien. L'ocre parisien ou l'ocre parisienne, je ne sais pas, tiens. Sur la terre battue parisienne. Ah non, arrêtez avec ce jingle qui nous donne des...
Non, c'est Perrier.
Perrier, voilà. Excusez-nous, vous êtes encore là, pardon. On continue. Oui, donc Jérémy Chardy, parce que c'est bien lui dont il s'agit, qui va attaquer Paris. Quel est son programme des jours à venir? Il était à Belgrade.
Il était à Belgrade hier soir. Il s'est fait sortir par le Serbe, le local Lajovic, 6-3-6-3, dans l'humidité ambiante. C'était pas un grand match que j'ai regardé comme ça d'un œil. C'était pas un grand match de tennis du côté de Jérémy. Bref, on sait que ce qui arrive avant, ça n'a rien à voir sur ce qui peut se passer à Paris. Donc effectivement, il rallie Paris aujourd'hui. Le tirage au sort a lieu en fin d'après-midi ce jeudi. Il sera pas tête de série. Donc effectivement, le tirage au sort aura une grande influence sur le parcours de tous les joueurs. Ça, c'est évident pour tout le monde. Donc on va attendre. Il est assez en confiance, il était sur Biarritz la semaine dernière pour une grosse semaine d'entraînement. Voilà, il rejoint Paris, c'est son tournoi préféré. Il a souvent brillé à Paris, il a fait 3 fois 8e de finale, 2 fois, pardon. Pourquoi pas? Voilà, on va attendre le tirage gentiment, voir ce qu'il est capable de faire. Mais il est en forme, il est entraîné, il n'est pas blessé. C'est le meilleur Français de ce début d'année.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on sait que c'est un garçon qui marche aussi à l'affect. Ouais. Il adore Paris. Il y aura de nouveau un peu de public.
Il y aura le public, il y aura la famille, quelques potes.
Il sort d'un début de saison très encourageant, globalement quand même. Ça ressemble à des planètes un peu alignées quand même.
Ouais, les planètes s'alignent.
Si le destin veut bien lui sourire au tirage.
Voilà, s'il peut éviter Tsitsipas au premier tour et Djokovic au second. Non, mais voilà, une tête de série ou un vrai terrien, un espagnol, ou enfin bref, un vrai joueur de terre au premier tour, c'est clair que ça sera pas mal. Et l'idée, ça serait même de prendre une tête de série au premier tour, mais un joueur de gazon ou un joueur qui n'aime pas la terre, ou un Medvedev qui n'a jamais gagné par
exemple. Benoît Paire.
Ou Medvedev, tête de série numéro 2, qui n'a jamais gagné un match à Roland-Garros. Pourquoi pas? Et là, au moins, il s'est déblairé le terrain jusqu'en 8e. Mais voilà, on va attendre gentiment le tirage au sort. Mais c'est vrai que il est en forme. Il a tout pour briller cette semaine à Roland. Il va faire beau, je crois, les premiers jours. Donc la terre sera sèche. Voilà, on va attendre ça gentiment. Mais pourquoi pas? Un joli parcours de Jérémy à Roland-Garros. Puisque les autres Français ne sont pas vraiment en grande forme. C'est pas le débat ce soir, mais... les deux Français tête de série, Gaël Monfils et Hugo Humbert, ils sont pas en super forme en ce moment, donc pourquoi pas un beau parcours de Jérémy sous le soleil de la Porte d'Auteuil.
D'accord, très bien. Et un dernier petit mot de football, parce que la saison de Christian est terminée pour le Pau FC, mais elle n'est pas totalement terminée pour la Ligue 2. Et il y a un match qui fait trembler autour de cette table, un back-to-back qui commence ce jeudi soir. entre le TFC Natal de Jean Forêt et le FC Nantes Atlantique de Valdemar Letor de l'autre côté de la table. Une petite analyse de ce duel. Qui, pensez-vous, allons-nous retrouver au Nouste-Camp l'année prochaine?
Ça, c'est une bonne question. Moi, j'étais très surpris, Merci. En tout cas, et très déçu le week-end dernier par cette défaite des Nantais à la Beaujoire qui disputaient une finale
pour
arracher leur maintien. Voilà. Je ne les voyais pas du tout trébucher. Et bien, ma foi, ça s'est produit. Je vous avoue que ce match me paraît très ouvert.
Entre autres termes, le match nul n'est pas à exclure.
Non,
c'est les retours.
C'est les retours. Donc, je dirais que la dynamique positive de Toulouse, malgré le Covid et tout, s'il n'y avait pas le Covid, déjà, je pense que le TFC serait déjà en Ligue 1. Hein, ouais. Il serait monté directement. Je dirais que je leur donnerais quand même un avantage par rapport au fait que Nantes a dû pas mal batailler pour en être là, hein, malgré tout, puisque Comboiré, même si on dit que son bilan est mitigé, il a quand même su redresser la barre. Ce sera compliqué, mais je dirais peut-être quand même, je mettrai une petite pièce sur Toulouse.
Le Canari en face de la table. Séchez vos larmes d'abord, Greg, et ensuite livrez-nous un peu votre
Toulouse, Toulouse quand même, avec son ancien capitaine Capou hier soir, qui a été phénoménal avec la Villarreal, Christian. Donc si c'est pas un signe quand même, ça, mon cher Greg. Et puis ces Nantais, ils sont absolument pas sereins. Je pense pas qu'ils soient formatés pour batailler, ferrailler, pour jouer leur place en Ligue 1.
Je ne peux être qu'inquiet dans cette situation-là. J'ai une pensée pour Elliot Roudil aussi, le fameux supporter du FC Nantes, pour Alexandre Oliro, gardien palois prêté par Nantes. Donc pour eux, pour leur faire honneur, j'espère que le FC Nantes sera à la hauteur justement de son histoire.
Bien sûr.
Mais allez-y, Greg, ouvrez votre cœur. Vous avez un maillot de Pascal Delomo dans votre armoire à la maison, vous me l'avez déjà dit. Donc ça, c'est maintenant. Là. Allez, qu'est-ce qu'on peut trouver comme argument
d'espoir? Mais Antoine Comboiré, va les remonter comme des coucous, les mecs.
Ça marche plus,
c'est des guerriers.
Le talent individuel des Nantais, s'ils sont à leur meilleur, théoriquement, c'est au-dessus du TFC, disons.
Il y a donc du talent individuel?
Dans l'expression collective, ils ont eu plutôt quelques absences cette saison. Donc on va espérer une deux performances de top niveau et régler l'affaire et renvoyer Jean au basket.
Pour ça, il faudra, comme le disait, c'est Sébastien Briac, qui est notre consultant rugby à l'occasion, qui a dit ça, il faut se déguiser en con parfois. Donc on souhaite aux Nantais de trouver leur déguisement. Et nous, on va trouver nous, on l'a déjà, c'est bon, on n'arrive pas. C'est le rechange qu'on n'a toujours pas trouvé. Prono time, messieurs. Nous, on n'a que deux matchs, hein, donc ça va être facile. Ça va être plus rapidement expédié. On va commencer par le basket, donc l'élan béarnais qui va recevoir le BCM Gravelines samedi soir. Et ensuite, donc, la section à La Rochelle. On commence par Christian. Oui.
Au niveau du basket, victoire de Léon Bernet.
On dirait un bulletin météo en Roumanie dans les années 80. Mais allez-y, continue.
Excusez-moi. Pour le rugby...
Du coup, j'ai pas entendu. C'était quoi
votre... C'est une victoire de l'élan.
Une victoire de l'élan, pardon.
Merci. BCM Gravelines. Et au niveau du rugby, même si, encore une fois, je vais vous surprendre, mais je dirais que je vois Pau au moins ramener un point de bonus défensif, voire l'emporter. Parce qu'encore une fois, je pense que La Rochelle ne sera pas dans les meilleures dispositions.
Et moi, je suis assez d'accord avec vous sur la section. Voilà. C'est une petite aparté. Jean.
Oui, alors je commence par le rugby, tiens. Alors moi, je vois quand même une victoire de Bayonne à Montpellier, hein, si on ne m'a pas posé la question. Parce que contrairement au Rochelais, Montpellier a gagné sa Coupe d'Europe. Et donc, je ne les sens pas se remobiliser à fond pour le championnat. Ils ont 9 points d'avance sur la section. Je ne pense pas qu'ils jouent à la vie et à la mort demain soir, contrairement aux Bayonnais. Bref. Quant à la section, non, ils vont perdre, peut-être pas de beaucoup, mais ça va être difficile de tenir. Quand je vois les chiffres sortis par Jérôme tout à l'heure, je ne vois pas la section s'imposer à La Rochelle. Quant à l'élan, j'espère qu'ils ne vont pas nous jouer un coup de Trafalgar. Donc je veux une victoire, une belle victoire, probante, avec un bel écart dès la mi-temps, et qu'on n'en parle plus.
Un petit bisou à
Serge Crèvecœur, qui reste dans le Nord, malheureux, qui aurait bien aimé revenir au Palais des Sports, voir tous ses amis, mais malheureusement, il les aura devant LNBTV.
Greg, à votre tour.
Ce sera une victoire de la section paloise à La Rochelle, 23-21. Et ce sera une victoire assez évidente de l'élan, plus 22.
Et Jérôme, pour conclure.
Terrible. Je vais devoir parier pour une défaite de la section paloise du côté de La Rochelle. Mais je pense effectivement qu'ils vont ramener un point de bonus défensif qui servira peut-être à rien. Mais j'imagine bien un match serré. Voilà, je vois bien un petit 25-23 pour La Rochelle, un truc un peu dur. Et puis pour ce qui est de l'élan, bah, je pense quand même que là ils vont gagner. J'espère bien que Jean va pas nous faire mentir, même si à chaque fois que Jean pronostique une victoire de l'élan, ils perdent. Donc je sais pas trop. Mais je vais quand même dire une victoire plus 15
de l'élan. Gratuite.
Merci messieurs, je noterai juste donc que sur 5 personnes autour de cette table, il y en a 3 qui se mouillent pour des points, voire une victoire de la section à La Rochelle. On verra. Je vous souhaite moi une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bons matchs, et à bientôt pour vivre encore plus cette fin de saison. Salut tout le monde.